RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
Et ensemble nous recevons Bruno Fuchs. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Vous êtes porte-parole du MoDem, député du Haut-Rhin. Ça va, c'est pas trop lourd à porter tout ça?
Jusqu'à présent, ça va. Quand on est engagé et qu'on croit en ce qu'on fait, ça va. C'est pas trop lourd.
Alors merci d'avoir accepté notre invitation. François Bayrou, que vous connaissez bien puisque vous êtes du MoDem, ne sera pas censuré demain par les socialistes. Cette stabilité apparente est-elle un château de sable?
Non, je pense qu'on est dans une situation en France qui est inédite d'avoir un Parlement sans majorité, avec trois grands blocs, et qu'il faut apprendre, dans cette configuration, à travailler ensemble et avoir des positions qui sont responsables, qui tiennent compte de l'intérêt du pays, de l'intérêt des Françaises et de l'intérêt des Français, et pas uniquement des intérêts partisans. Donc si vous avez un Premier ministre, c'est le cas aujourd'hui, qui arrive à faire travailler les uns avec les autres et à montrer que l'intérêt du pays prime sur l'intérêt partisan ou l'intérêt personnel, c'est quand même le cas de beaucoup d'acteurs aujourd'hui de la vie politique en France. Voilà, le Rassemblement national, par exemple, qui a voté la première censure, disant que c'est pas possible d'avoir un budget comme celui-ci. Et aujourd'hui, ils ne vont pas déposer de motion de censure, alors qu'ils l'ont fait il y a quelques mois.
Donc vous dites que c'est une victoire pour François Bayrou ?
Donc c'est une victoire pour les Françaises et pour les Français, et bien sûr pour l'acteur principal qui est capable de mener aujourd'hui ces discussions avec les uns et les autres, qui est le Premier ministre actuel, Louis-François Bayrou.
En fait, le Premier ministre a donné, d'une certaine manière, au Parti socialiste l'occasion de s'émanciper de la France insoumise, mais pour autant, le Parti socialiste n'est pas devenu un allié, vous êtes bien conscient de ça. D'ailleurs, il parle de déposer une motion de censure,
bien sûr,
très prochainement, sur l'expression de submersion migratoire.
Bien sûr. Oui, bien sûr. Mais c'est l'intérêt, justement, c'est la plus haute responsabilité politique, c'est que vous faites des compromis, et un compromis, par définition, c'est que personne n'est content d'un compromis, puisque vous avez fait des efforts. Mais vous le faites dans l'intérêt du pays. C'est ce que fait le Parti socialiste, qui a retrouvé, finalement, cet esprit de responsabilité. Il ne peut pas être non plus trop en décalage avec ce qu'il a fait sous François Hollande, où il y avait eu 50 milliards d'un plan de responsabilité et de solidarité, de 50 milliards de réduction de dépenses publiques. Par exemple, les aides sur l'apprentissage avaient été supprimées en 2014 par Jean-Marc Ayrault. Donc on peut pas, il y avait 1 000 euros à l'époque supprimés. Là, on est à 8 000 euros par ce gouvernement. Donc on ne peut pas être non plus trop éloigné des politiques que l'on a menées. Et donc moi, je salue que dans le pays, il y a une majorité de personnes et d'hommes politiques responsables qui sont capables de s'entendre, pas sur le budget qu'ils auraient souhaité pour la France, mais quand vous avez des positions de divergence, l'autre, celui qui est en face de vous, a aussi une partie de la vérité. Donc c'est capable de s'entendre en disant, voilà, je t'accorde ça et tu m'accordes ça, et ça fait un équilibre.
On va passer à la politique étrangère, mais vous êtes en train de dire en quelque sorte que ce pacte, c'est donnant-donnant. Ça offre une victoire pour l'instant à François Bayrou, et à la fois, ça permet aux socialistes de se décoller de la tutelle des insoumis.
Oui,
d'avoir une responsabilité pour peut-être 2027.
Alors, si on veut faire de l'analyse politique, je pense que c'est votre sens de votre question. Oui, il y a l'habileté de François Bayrou, mais c'est pas une habileté, elle est naturelle. L'ADN, je crois, François Bayrou est le seul homme vraiment politique de la Ve République dans lequel l'ADN de François Bayrou, c'est justement de dire que seul, on n'a pas la vérité et qu'il faut agréger un certain nombre de vérités
différentes. François Hollande qui était connu pour ça aussi,
hein. Oui, mais
le consensus.
Oui, le consensus. Mais François Hollande, il fait des équilibres.
Oui.
Voilà. Il a l'habileté des équilibres. François Bayrou, il a ça. C'est l'origine même de son engagement en politique. Oui. Donc c'est pour ça que je dis que c'était dans ce cadre-là, l'homme de la situation, on le retrouve là. Et puis après, il y a un volet de stratégie politique. C'est que, comme en Coupe de l'Amérique, hein, vous avez le PS qui est derrière dans le sillage de LFI. Ils veulent les doubler. Et ils se disent, on va changer de plan d'eau, c'est le moment. On change de bord, on change de plan d'eau, et c'est là qu'on va pouvoir dépasser LFI. Donc il y a eu toute une compétition sur la mainmise, en tout cas sur le leadership de la gauche, et que le PS pense, à travers cette stratégie d'opposition responsable, dans laquelle ils vont obtenir pas à pas des concessions. Et c'est toute l'histoire de la gauche, avec les deux gauches, la gauche radicale qui veut toujours renverser la table, et celle qui pense qu'on a mieux fait, pas à pas, de gagner un certain nombre de victoires et qu'on n'aura jamais l'intégralité, on est dans l'absolu, dans l'idéal des choses.
Ça s'appelle le compromis.
Voilà.
Donald Trump suspend les droits de douane envers le Mexique et le Canada pour un mois, jusqu'à ce que les deux pays s'engagent à lutter contre le trafic de fentanyl, notamment cette drogue dont les principes actifs viennent de Chine aussi, donc vis-à-vis de la Chine aussi. Mmh. Est-ce que la méthode Trump démontre ou va démontrer son efficacité, c'est-à-dire qu'on tape au portefeuille et c'est généralement que ça marche?
Bon, je pense qu'à court terme, oui, il va obtenir un certain nombre de résultats. Mais il aurait pu commencer tout de suite par l'objectif de départ, la lutte contre les narcotrafics, et de dire voilà comment on lutte ensemble contre les narcotrafics dans une politique de coopération et de vision multilatérale. Il fait un deal, il les menace de droits de douane, etc., pour obtenir ça. Bon, je trouve que c'est sa façon de faire. Il y aura des résultats à court terme, bien sûr, mais à long terme, c'est une destruction de la confiance entre les partenaires, c'est du rapport de force. On est dans un monde, le monde multilatéral d'après la Deuxième Guerre mondiale qu'on a essayé de construire pas à pas et complètement déconstruit. C'est un autre ordre mondial dans lequel c'est le rapport de force qui va l'emporter. Mmh. C'est ce qui existait avant la Deuxième Guerre mondiale, en tout cas en Europe ou dans les pays occidentaux. On revient à un état précédent, on en connaît les résultats. Le rapport de force, la défiance, la haine l'un de l'autre, le conflit, et puis la guerre, certainement à un moment ou à un autre.
Dans cette volonté qu'a Donald Trump de faire plier les pays d'où proviennent les produits stupéfiants, il n'y a pas matière à réflexion pour la France dans la lutte contre le narcotrafic?
Oui, mais l'objectif, bien sûr, est juste. On a d'ailleurs lancé un plan très très fort sur le narcotrafic, parce qu'on est là dans un trafic qui, non seulement génère de l'argent illégal, mais aussi gangrène complètement la société et puis les mentalités. Mais il faut le faire en affrontant directement le sujet. Sur les droits de douane, quand Trump était dans son premier mandat, il a augmenté les droits de douane sur la Chine. Ça a généré $700 par an de coûts additionnels par Américain. Donc, il faut voir les effets que ça génère. Cette méthode du rapport de force, de dire « je suis le plus fort, je fais plier », elle peut, à court terme, apporter des résultats. À long terme, elle crée la zizanie, le dissensus, le conflit, et je vous dis, la guerre au moins commerciale.
Pour poursuivre la question de Frédéric, parce que c'est très juste, lutter contre les narcotrafics qui sont devenus maintenant des multinationales avec une puissance destructrice, corruptrice, exceptionnelle. Donc en France, on a vu les mesures prises par Bruno Retailleau et Gérald Darmanin, mais dans le fond, on n'arrive pas à chasser ou enfin à toucher ces narcotrafics. Est-ce qu'il faudrait, je ne sais pas, mondialement, est-ce qu'il faudrait un gouvernement mondial? Alors c'était le vieux truc d'Attali, un gouvernement mondial pour gouverner le monde, en quelque sorte.
Ça, c'est la vision française ou francophone de la vision multilatérale et donc d'une gouvernance mondiale. On a des institutions qui fonctionnent plus ou moins bien, mais qui existent. L'ONU, l'OMS pour la santé, l'UNESCO pour la culture, l'OMC pour le commerce. Mais ce que je peux vous dire, que la vision de Donald Trump n'aboutira pas au résultat escompté. C'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre.
Justement, la question, je vous demande, c'est comment...
Sur le fond, je pense qu'on prend conscience de ce phénomène aujourd'hui. On n'a pas conscience là. Donc il faut une lutte mondiale sur ces sujets. On a commencé pas à pas, mais avec des effets sur tout ce qui est aujourd'hui la capacité à blanchir de l'argent et puis un certain nombre de pays qui aujourd'hui le permettaient, qui ne permettent plus aujourd'hui, qui sont aujourd'hui beaucoup plus dans les clous. Mais surtout, il faut regarder, par exemple, prenez Haïti. Haïti, on voit bien la destruction totale de l'État, l'incapacité à vivre, le racket permanent, notamment lié au narcotrafic. Donc avec des armes comme ça, ça doit inciter à une lutte vraiment farouche contre ces trafics-là.
Alors, venons-en, si vous le voulez bien, à la France et à l'Algérie. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a accordé une longue interview au magazine L'Opinion. Et il se dit d'ailleurs confiant, puisqu'on parlait de Donald Trump, il se dit confiant dans les rapports avec les États-Unis. Il est d'ailleurs très aimable avec le président Trump, puisqu'il dit « Lorsque j'ai été élu en 2019, il m'a envoyé, il parle de Trump, hein, il m'a envoyé une lettre pour me féliciter quelques heures après les résultats, quand le président Macron a mis 4 jours pour prendre acte de mon élection. Est-ce qu'il y a une part de dimension personnelle aujourd'hui dans la profonde dégradation des relations entre nos deux pays, France et Algérie ?
Oui, je pense qu'il y a une dimension personnelle, certainement. Il faudrait demander aux acteurs. Mais ce que vous citez là de déclaration du président Tebboune, oui. À l'inverse, ce que j'observe, c'est que le président Tebboune, dans son interview de cette semaine à l'Opinion, au journaliste Pascal Hérault, passe 4 heures avec le journaliste. Donc un président qui a décidé de faire un trait sur la relation avec un pays comme la France ne passe pas 4 heures à faire de la pédagogie, oui, à expliquer, etc. Donc c'est plutôt un bon signe. Au moins
vous voulez dire que de donner une interview, c'est une façon de tendre la main en disant arrêtons l'escalade verbale et voilà, c'est un message.
Je pense que c'est ce qu'on peut lire dans en tout cas, c'est comme ça qu'il faut lire. On ne va pas faire de la politique pour être défaitiste dès le départ. On a 6 millions de franco-algériens. C'est un pays, quasiment, 6 millions de gens qui vivent entre les deux pays, avec les deux pays, qui s'aiment, qui travaillent ensemble, qui vivent ensemble, qui font la fête ensemble. Moi, à Mulhouse, dans ma circonscription, j'ai énormément d'Algériens. Il n'y a pas de conflit lié, en tout cas, à l'identité ou à la nationalité. Et c'est ça la base de la relation entre la France et l'Algérie. Et donc, c'est maintenant aux exécutifs à se caler, à s'interfacer, à être cohérent avec ce que les peuples souhaitent. Moi, je suis député, je suis élu par des citoyens, je les représente. Et quand je vais en Algérie, j'y allais, ou quand je suis en Alsace avec des Algériens, il n'y a pas de différence. On vit ensemble. Et donc, il faut que les exécutifs, on trouve un moyen, et les parlementaires certainement très bien indiqués comme représentants des populations, pour mener justement ce travail, pour recréer un lien beaucoup plus harmonieux, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, pour que les deux exécutifs se parlent et développent des politiques publiques. Il y a beaucoup de politiques publiques à mener avec l'Algérie.
Alors, puisque vous parlez des franco-algériens, il y en a un dont on parle beaucoup depuis quelques mois, c'est l'écrivain Boualem Sansal. Et à ce propos, dans cette même interview, voici ce que dit le président Tebboune. Boualem Sansal n'est pas un problème algérien, c'est un problème pour ceux qui l'ont créé. Jusqu'à présent, il n'a pas livré tous ses secrets. C'est une affaire scabreuse visant à mobiliser contre l'Algérie. Qu'est-ce que vous comprenez, vous, des propos du président
Tebboune ? Là, on est justement, on est plus sur la discussion sur la situation, sur l'écrivain lui-même.
Quand il dit livrer tous ses secrets, de quoi il parle ?
Là, on est vraiment dans l'instrumentalisation de la relation entre la France et l'Algérie. Enfin, de la politique. Enfin, le président algérien fait de la politique. Et donc, il y a une instruction judiciaire. Nous, ce qu'on souhaite vraiment, c'est que son avocat puisse, un citoyen français, même s'il est récent, il est citoyen français, c'est l'archétype même de la personne qui vit entre les deux pays, qui est dans ces 6 millions de franco-algériens, d'algéro-français. On souhaite vraiment que son avocat puisse y aller, qu'il y ait une instruction. On est en Algérie, on ne peut pas s'immiscer dans la justice algérienne, et qu'il soit libéré, en tout cas, qu'on puisse voir son avocat, et qu'il soit libéré au plus vite. Et aussi, peut-être, pour des questions humanitaires. On peut s'adresser au président algérien pour qu'il... Si on va, et c'est mon point, si on fait des pressions très, très fortes, on voit bien la tonalité de ce que dit le président algérien, plus on va faire des pressions fortes, on va menacer, etc., moins, du côté de l'autorité méditerranée, ils auront envie de le libérer. Donc, il faut respecter le cadre algérien. Il faut réellement demander à ce que son avocat puisse le voir le plus souvent possible.
Respecter les droits...
Les droits internationaux aussi. Et puis ensuite, en appeler à l'humanité du président Tebboune, et certainement, au plus vite, à une instruction qui lèvera tous les doutes sur ce qu'on peut lui reprocher. Parce que là, c'est un certain nombre de sujets. On ne voit pas très bien ce que c'est en réalité. Non. Donc, il faut lever toute ambiguïté et le permettre de ressortir très vite. Je crois savoir aussi qu'il est quand même traité plutôt correctement d'une situation de santé qui est alarmiste Donc il y a cette question également de sanitaire, de santé humanitaire qu'il faut avoir.
Bruno Faux,
vous êtes vraiment, on demande au président algérien de le libérer le plus vite possible pour des raisons au moins humanitaires. Je ne vais pas moi m'incriminer dans les questions de procédure judiciaire en Algérie.
Vous êtes donc président de la Commission des Affaires étrangères et vous organisez ce jeudi à l'Assemblée nationale un grand colloque sur le Moyen-Orient. Alors, quel enjeu ? Pour faire quoi ? Pour discuter de quoi ? Et in fine, pour aller où ?
La question est de savoir maintenant comment on peut alimenter la réflexion. Nous, parlementaires, on n'a pas d'armée, on n'a pas d'argent, on n'a pas de moyens d'imposer ou de proposer un cessez-le-feu et des conditions de paix. En revanche, la réflexion aujourd'hui qui se pose dans les prochains mois, c'est quelles sont les conditions qui permettent d'assurer la souveraineté du peuple palestinien et la sécurité de l'État d'Israël et de ses citoyens. Et ces deux conditions amènent, bien sûr, un certain nombre d'hypothèses. Et donc on a réuni à l'Assemblée nationale des experts, des chercheurs, des anciens ambassadeurs, le moins possible de politiques en activité aujourd'hui, parce qu'en général, on défend une position. Et l'idée, c'est de savoir comment on peut faire des propositions et enrichir le débat public sur un certain nombre de sujets liés au Levant d'abord, puisqu'on voit bien qu'avec la chute en Syrie du dictateur précédent et puis un certain nombre de dimensions nouvelles, toute la situation du Moyen-Orient.
Le dictateur précédent, vous avez dit,
oui,
dire
le Bachar el-Assad. Il y a eu plusieurs en Syrie, donc Bachar el-Assad aujourd'hui. Okay. Enfin, voilà. Donc, je n'ai pas de souci à donner son nom. Aujourd'hui, rebat les cartes. Donc l'idée, c'est comment aujourd'hui on peut contribuer à des propositions. Très, très clairement, les questions qu'on va poser, ce n'est pas des questions de l'actualité d'aujourd'hui, mais c'est est-ce que, surtout après la proposition décriée du président Trump de vouloir demander aux pays limitrophes, Jordanie et Égypte, de récupérer, de prendre en tout cas l'ensemble des Palestiniens, on voit bien que cette question-là, elle est absolument
centrale. Mais qu'est-ce qui vous permet de penser que ce colloque pourrait déboucher sur quelque chose qui, un jour, favoriserait un règlement pacifique dans la région ? Parce qu'en plus, se pose le problème que la France, aujourd'hui, ne pèse pas dans cette actualité, dans ce sujet-là, le conflit israélo-palestinien. Et même l'Europe, l'Union européenne, n'a jamais été considérée comme un interlocuteur de premier plan, notamment par Israël.
Non, là, il s'agit de donner des idées. Il s'agit après de les faire porter par les acteurs sur le terrain. Mais, par exemple, qu'est-ce qu'on fait des réfugiés, des camps de réfugiés ? Qu'est-ce qu'on fait de ces populations-là ? C'est une vraie question. Aujourd'hui, on n'a pas de plan pour savoir réellement comment on traite ces populations qui ont vraiment besoin de beaucoup d'accompagnement. Il y a des schémas aujourd'hui qui disent qu'il faut un territoire à Gaza et un territoire en Cisjordanie, et pas un seul ensemble pour la Palestine. Et puis, à l'extrémité, on entend le président Trump qui dit finalement, il faut débarrasser Gaza, entre guillemets, bien sûr, hein, je reprends ses propos, des Palestiniens. Donc tout ça, il faut des schémas très clairs de ce qu'on peut faire pour assurer la paix.
On arrive au terme de cette émission. Le succès de ce colloque, vous le mesurerez peut-être dans quelques années. Alors,
et ensuite, on va créer à l'Assemblée un groupe de travail pour mesurer justement et accompagner les différentes mesures auprès des interlocuteurs. Oui, c'est le travail de moyen terme.
Merci Bruno Faux.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci à Camille Héran et à Flore Simon d'avoir accepté.